Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Radio Foot. On ne verra plus son imposante silhouette et ses cheveux décolorés sur les terrains d'Afrique et d'ailleurs. Dans un instant, entretien avec un jeune retraité nommé Aristide Bansé. L'attaquant vedette du Burkina Faso avait annoncé il y a peu la fin de sa carrière internationale. Ce n'était que la première partie de l'annonce qu'il complète cette semaine en mettant aussi un terme à sa carrière en club. Le Oroya de Conakry restera donc le dernier de ses très nombreux clubs. Nous en parlerons avec nos consultants du jour. Ils sont là dans la fraîcheur de notre studio alors que la température monte dans Paris. Franck Simon, bonjour Franck.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Bonjour Gilles Verdez.
Bonjour.
Et bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Christophe.
Au sommaire également le foot anglais avec un coup de chapeau pour commencer à Jordan Ayew, élu meilleur joueur de Crystal Palace pour cette saison. Des questions sur José Mourinho qui a qualifié Tottenham pour la prochaine Ligue Europa. Est-ce que ça suffit quand on s'appelle José Mourinho? Et puis le mépris de Manchester City pour l'UEFA. Le mot est fort, mais c'est celui qu'utilise le tribunal arbitral du sport dans le jugement qui, par ailleurs, innocente le club anglais quant au respect du fair play financier. Dans ce jugement dont on a le détail, il est dit que si Manchester City n'a pas enfreint les règles du fair play, il a affiché le plus grand mépris pour l'enquête. Radio Foot préparé avec Tom Rossi et Laurent Salerno. Nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel.
Le centre pour Bansé. Et c'est le nom Aristide Bansé. Ça va partir, Bansé, la frappe. Et c'est le nom Aristide Bansé, l'attaquant Bansé, le phénoménal,
le taulier, le grand gabarit, Aristide Bansé, l'homme qui a fait soulever ici le stade de l'amitié.
Il est l'une des figures du foot africain depuis une bonne dizaine d'années, combatif, décisif, parfois toujours déterminé. Aristide Bansé a animé les cannes, donné du poids aux étalons, mais après avoir dit stop à l'équipe nationale, il a annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux que Oroya serait son dernier club. Nous l'avons joint tout à l'heure à Ouagadougou, mais comme on voulait être sûr, on lui a d'abord posé cette première question. Est-ce que vous confirmez que votre carrière est bel et bien terminée?
C'est terminé, voilà. J'ai annoncé avec la sélection. Bon, après quelques jours après, bon, j'ai annoncé avec le club, quoi. Voilà. J'ai parlé avec le président et tous les dirigeants d'abord. Quand on est tombé d'accord, maintenant, là, maintenant, j'ai fait maintenant ma publication. Voilà, pour dire, bon, c'est fini, quoi.
Pourquoi arrêter maintenant?
Bon, ben, c'est le moment, hein, parce que faut savoir s'arrêter. C'est vrai que je pouvais encore jouer et tout le monde me dit. Je pouvais encore jouer, j'ai encore la force, hein, je pouvais encore jouer, mais je pense que j'ai envie de faire d'autres choses dans le football. Voilà, je veux rester dans le football, je veux me préparer, parce que pour se préparer, ça met du temps. Et pour gagner du temps, je pense qu'il vaut mieux arrêter maintenant.
Ouais, ben à 35 ans, on peut encore faire beaucoup de choses, mais même quand on est attaquant.
Oui, c'est vrai, à 35 ans, on peut faire encore beaucoup de choses, mais vu que je ne suis pas dans un championnat, peut-être là où peut-être les matchs sont peut-être rythmés, je veux dire, par exemple, la Guinée-Conakry, bon, c'est un bon championnat. À part la Champions League, il y a la Champions League peut-être au haut niveau. Mm-hmm. Voilà, c'est les compétitions comme ça qui peuvent me maintenir encore. Mais si, peut-être, j'avais eu la chance peut-être de jouer dans un championnat plus élevé, voilà, ça allait encore prolonger ma carrière encore. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que je peux jouer, mais c'est-à-dire que je ne serais pas peut-être à 100%. Hein. Alors que quand c'était peut-être dans un autre championnat, là, il y a des matchs rythmés, ça va prolonger encore ma carrière et je peux rester encore plus haut niveau.
Mais avec le Oroya de Conakry, il y avait encore au moins une demi-finale de Coupe de la Confédération à jouer contre les Égyptiens de Pyramids FC. Même cette perspective-là, vous a pas poussé à aller encore un peu plus loin?
Avec la maladie, la pandémie, voilà, du coronavirus, 4 mois on était à l'arrêt. C'est vrai que moi je m'entraîne individuellement, mais j'ai plus 20 ans, j'ai plus mes jambes de 20 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui, donc moi pour revenir encore à mon top niveau, il faut encore la préparation physique, revenir alors que la demi-finale c'est bientôt. Donc moi j'ai préféré vraiment arrêter. Voilà, parce que j'aime pas tricher. Voilà, quand je suis pas en forme, je préfère dire. Et alors, au lieu de revenir encore à zéro, j'ai 35 ans, j'ai dit non, pourquoi pas passer à autre chose. Donc, c'est pourquoi j'ai pris une décision.
Comment vous vous sentez maintenant, Aristide Bansé, après avoir annoncé votre décision? Est-ce que vous êtes ému? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes soulagé, au contraire?
En tout cas, ça me fait des choses. Voilà, je suis un peu triste parce que j'aime le football. J'aimais le football. Voilà, c'est mon métier. Voilà, j'ai commencé à jouer, en tout cas. Et on prend du plaisir quand on joue le football, on prend du plaisir, pas seulement parce qu'on est payé, on prend du plaisir, on marque des buts, voilà, on fait plaisir aux fans, et enfin, tout le monde te reconnaît par rapport à ton boulot. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pris une décision où je me suis retiré, voilà, donc je vais maintenant affronter une nouvelle vie. Ça va maintenant gérer, quoi. Sinon, normalement, maintenant, je me sens bien, ça va.
Alors, le Oroya restera donc le 22e et dernier club de votre carrière. Vous avez joué en Afrique, en Europe, sur le continent asiatique aussi. Qu'est-ce qui explique, Aristide Bansé, que vous ayez autant changé de club?
Les gens se posent des questions. Hey, Aristide Bansé, il a 22 clubs. Pourquoi 22 clubs? Et je vais dire en même temps, je profite en même temps de dire, il y a des clubs qui n'ont pas été corrects avec moi. Voilà. Et il y a aussi des clubs qui sont peut-être malhonnêtes avec d'autres joueurs, mais personne n'en parle. Et tout dernièrement, on a vu ma déclaration où je me suis plaint d'un club égyptien. Voilà, où j'ai été blessé, ils ne m'ont pas soigné, des salaires impayés. Donc, Aristide Bansé a changé beaucoup de clubs parce qu'il n'a pas été payé. Les contrats n'ont pas été respectés dans plusieurs pays. Et quand on regarde les 22 clubs, il y a peut-être 6 clubs qui ont été corrects avec moi. Voilà, donc je suis allé au Maghreb, ça ne s'est pas bien passé là-bas. C'est tout le temps comme ça avec les joueurs. On bloque leur passeport, ils ne peuvent pas voyager. Donc moi, franchement, je suis contre ça. Donc j'ai commencé à dénoncer. Donc c'est pourquoi Aristide Bansé a eu plusieurs clubs dans sa carrière.
Est-ce que vous n'avez pas connu des difficultés à vous imposer aussi dans certains clubs?
Moi, en tout cas, je me suis imposé sur le terrain. Par exemple, quand je suis arrivé à Al Masry, en Égypte, c'était pareil. Voilà, les salaires, quand ça traînait. Bon, après, quand on traitait... On ne nous traitait pas bien. Voilà. Donc moi, j'étais obligé de rentrer chez moi. Soit je partais au Burkina, soit je partais à Abidjan. Donc je les faisais pression. Et quand on me réveillait, j'étais obligé de revenir. Et quand je reviens, en tout cas, sur le terrain, j'ai toujours prouvé. Voilà. Quand je viens, je marque, je faisais des doublés. J'avais la chance quand même, quoi, d'avoir une bonne forme. Donc, c'est comme ça que j'ai pu gérer. Voilà. Et après, quand je me suis blessé, ils ont vu que bon, on n'a plus besoin de lui. Il s'est blessé, on ne m'a pas soigné, ils ne m'ont pas payé. Donc... J'ai demandé quand même à résilier mon contrat à l'amiable. Voilà, et puis je suis rentré chez moi.
Mais vous avez eu aussi des expériences heureuses en club, évidemment. Hein. Vous avez joué 84 matchs avec Lokeren en première division en Belgique, marqué 29 buts. Mayence aussi, c'était marquant comme passage en Allemagne, 67 matchs, 28 buts. Est-ce que ça fait partie de vos meilleurs souvenirs? Quel est votre meilleur club d'ailleurs, celui que vous citeriez en premier?
En premier, bon, je vais quand même reconnaissant, c'est Lokeren. Voilà, c'est Lokeren avec, comme vous avez dit, avec 80 et quelques matchs, avec plusieurs buts. En tout cas, moi, je pense que c'est là-bas parce que c'est eux qui m'ont donné la chance. Voilà, ils sont venus me chercher ici au Burkina Faso, ils m'ont fait confiance et c'est de là que tout a commencé. Et ensuite, maintenant, je vais en compagnie avec Mayence. Mayence avec le coach actuel de Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, qui m'a donné aussi beaucoup de chance. Voilà, c'était sa première expérience en première division. Voilà, c'était moi qui étais son attaquant phare. Donc, moi aussi, d'un côté aussi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Voilà, j'ai beaucoup joué à Mayence. J'ai marqué des beaux buts là-bas. En tout cas, c'est les deux pays qui m'ont reçu, c'était la Belgique et l'Allemagne.
Alors, on retrouve le Aristide Bansé qu'on connaît, hein, qui s'engage, qui parle toujours avec beaucoup de conviction. Et il y a vraiment beaucoup de choses dans ce début d'interview. On va écouter une deuxième partie tout à l'heure. Gilles, qu'est-ce que vous en dites de tout ce qu'il nous a expliqué?
Il manque déjà. Ça manquera. Il faudra qu'il continue.
C'est une figure, oui.
Mais oui, il faudra qu'il continue à parler de lui à la troisième personne parce que c'est magnifique. Et c'est vrai que son parcours en club aussi reflète sa personnalité. C'est-à-dire, oui, il y a eu les 3 ans à Lokeren, l'Allemagne, et puis après une sorte d'errance. Alors, quand on veut être positif, on dit que c'est devenu un globe-trotteur, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déconvenues et des clubs qui n'ont pas été à la hauteur de son talent. Et je trouve, pour conclure, que c'est magnifique d'arrêter alors qu'il est au sommet. Voilà, il n'aura pas fait les mois et les matchs de trop.
Patrick?
Moi, je me rappelle surtout, c'est l'époque où j'ai vraiment commencé à travailler pour Foot 365 Afrique, donc sur le site internet où je travaille encore actuellement. Et c'était en 2009-2010 et c'était peut-être sa meilleure saison.
Il était au top, oui.
Avec le FSV Mayence 05. Là, il était en feu, quoi. Et à l'époque, c'était un club qui utilisait beaucoup de joueurs africains. Il y avait Chadli Amri, un Algérien, un petit ailier également. Il y a eu Sami Allaghi, il y a eu Choupo-Moting et Tuchel a su tirer le meilleur de lui. Effectivement, comme beaucoup d'Africains dans les années 2000, c'est la Belgique qui a été un peu sa porte d'entrée vers l'Europe. Et il faut quand même souligner que les clubs belges sont en général pas frileux pour aller chercher des joueurs venus du continent. Parfois d'ailleurs avec des excès chez les agents, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, et moi j'adore ce joueur parce que c'est quelqu'un qui est entier.
Oui.
Quand on l'a en interview, on sait qu'il est sans filtre. Il vous dit ce qu'il pense, de manière parfois abrupte, avec des mots pas toujours choisis, mais au moins on sait qu'il triche pas. Et moi j'adore ce joueur et j'adorais quand on était en zone mixte et qu'il pointait sa longue crinière blonde. On savait toujours qu'il allait nous donner des réactions intéressantes qui n'étaient pas fades comme certains de ses coéquipiers.
Mais c'est aussi dans les mots qu'il utilise. Hein, il dit dans ce qu'on vient d'écouter, j'aime le football, il parle des fans, il parle de la reconnaissance. Bon, il met de côté l'argent pour cette tirade-là, mais on sent qu'il a beaucoup aimé faire ce métier, Franck.
Il l'a aimé à tel point que moi je l'ai côtoyé beaucoup dans ces dernières saisons, notamment parce que il l'a expliqué, hein, il est basé à Abidjan, c'est un de mes voisins d'ailleurs.
Il est né à Abidjan.
Il est né à Abidjan, de parents burkinabés, et donc quand il est gravement blessé en Égypte, il est opéré en Belgique et revient faire sa rééducation à la SEC d'Abidjan. Et donc moi je le côtoyais, je l'avais suivi la saison magnifique qu'il avait faite à la SEC. Et c'est vraiment cette personnalité, cet homme, beaucoup de truculence, quelqu'un qui est adorable, qui est apprécié de tous, qui est un enfant d'Abidjan, qui est un enfant de William Zil à Djamé. Il a vraiment une cote de popularité importante et partout en Afrique, sans doute aussi à cause de cette coupe de cheveux. Et je suis un peu triste parce que c'est vrai qu'il va nous manquer, mais je l'avais suivi notamment aussi cette saison avec le Oroya. J'espérais d'aller le voir dans cette dernière étape. C'est dommage.
Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas ni quand, ni où auront lieu ces demi-finales. Donc je pense que cette indécision,
ça peut peser.
Ça a dû peser son choix parce qu'il a dû se dire, certes, mais peut-être que s'il avait su dès le début où et quand se joueraient ces matchs, il aurait pu au moins se mettre un rétro-planning et se dire je vais me préparer. Mais effectivement, il en avait sûrement. Ouais. C'était
c'est
la saison de trop, quoi. Non.
C'est pas une grande saison pour lui.
Il n'était pas titulaire.
Il a marqué, je l'ai vu marquer à la dernière journée, excuse-moi Gilles, la dernière journée de championnat de Guinée avant la crise sanitaire. C'est, je crois, le seul but qu'il a mis en championnat avec le Oroya. Il a marqué au début de la.
C'est le défi auquel ont été confrontés bien des sportifs et pas seulement en football. Ce report des grandes échéances d'une année. Est difficile à gérer. Il faut être très costaud mentalement, Gilles.
Je voulais juste revenir sur votre question autour de ces 22 clubs. Parce que c'est vrai que l'hétérogénéité de son parcours en club, avec quelques infidélités, on reviendra sans doute sur sa fidélité à la sélection magnifique. Mais je pense que la notion de talent est subjective, mais il avait peut-être le talent pour avoir un palmarès autre que champion de Finlande 2014 en club. C'est-à-dire que je pense que ce côté globetrotter, ce côté aussi entier, qui est parfait pour le personnage, lui a peut-être valu de ne pas avoir une carrière comme d'autres ont eu. Alors, je ne le compare pas forcément à Weah, Drogba, Eto'o, mais je pense qu'il avait les capacités en club quand même d'enrichir un palmarès qui restera malgré tout, hélas, assez maigre.
Alors, il met ça aussi sur le compte, on l'a entendu, de la façon dont il a été traité, ou plutôt maltraité par certains clubs. Est-ce que c'est seulement ça?
Pas uniquement.
Patrick.
Je pense qu'il avait un profil technique déjà de ce qu'on appelle un attaquant de puissance, qui peut convenir évidemment à beaucoup d'entraîneurs, mais il s'est retrouvé un petit peu en dehors des modes quand c'était la grande époque du Barça et du jeu à une touche. Et les entraîneurs privilégiaient plutôt des joueurs de déviation, des joueurs un peu plus légers, mais plus subtils peut-être. Mais moi, je pense qu'effectivement, il aurait eu... la chance peut-être de faire une meilleure carrière 10 ans avant, peut-être.
Franck ?
Il a quand même eu un bon passage. C'est vrai, ce sont les années belges et allemandes, les saisons belges et allemandes. Mayence, où il contribue à faire monter quand même le club, avec ce profil, c'est vrai, un petit peu atypique, un profil de déménageur. Mais on a vu que finalement, dans sa palette de joueurs, il y avait autre chose, que c'était aussi un tireur de coups francs, qui pouvait être à l'aise dans un petit périmètre, et qu'il a beaucoup progressé aussi. Le peu de temps, il a côtoyé Tuchel. Moi, il m'en avait parlé quand Tuchel était arrivé, je l'avais interviewé. Et il m'avait parlé de ce qu'était cet entraîneur et comment Tuchel l'avait encouragé, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il a une période, il n'a pas marqué du tout à Mayence. Pendant une dizaine de matchs, il ne marque pas, puis il s'accroche, puis il a un peu peur de quitter l'équipe. Et il dit, en fait, Tourelle n'a cessé de m'encourager. Il m'a dit, tant que les résultats suivent et que tu travailles, ça va aller. Et donc, c'est quelqu'un qui a un fort mental et qui a pu justement passer tous ces épisodes douloureux où en fait il s'est fait entuber, faut le dire, hein, par des clubs. Ils l'ont signé parce qu'il était l'homme de la finale de la CAN 2013 aussi. Il a apporté le Burkina en finale de la CAN en Afrique du Sud.
On va parler de l'équipe nationale tout de suite.
Il était un peu cette icône et il s'est fait quand même pas mal balader. Et c'est vraiment regrettable. Mais à côté de ça, Gilles et Patrick l'ont bien expliqué. Ça reste un personnage, un attaquant contemporain important.
Alors, on va écouter la deuxième partie de cet entretien avec Aristide Bansé, jeune retraité, donc il vient de nous le confirmer, pour parler de sa carrière avec les étalons, puisqu'il est quand même le deuxième meilleur buteur de l'histoire de cette sélection. 24 buts en 79 sélections. Le premier, c'est Moumouni Dagano. Et parmi ces buts, petit rafraîchissement de mémoire, une demi-finale de CAN en 2017. Nous sommes à Angondje, à Libreville, contre l'Égypte. Mohamed Salah a ouvert le score après l'heure de jeu. Mais quelques minutes plus tard, eh bien, le diable Bansé sort de sa boîte. Touré qui essaie de redonner pour Steve Yago dans la surface de réparation. On va pouvoir talonner pour Charles Caboret qui met au deuxième poteau. Peut-être pour Bansé, le but. Le but, l'égalisation signé Aristide Bansé. Deuxième poteau, oublié. Voilà, on était au commentaire ce jour-là avec Olivier Pron et Joseph-Antoine Bell. Vous entendez ça, Aristide Bansé. C'est un bon souvenir, ça, ce but égalisateur contre les Pharaons.
Oui, en tout cas, c'est un beau souvenir parce que moi, je me rappelle, deux jours avant la demi-finale, on parlait d'Aladari. Voilà, on nous disait que c'est un gardien qui n'a jamais encaissé. Ça fait longtemps, les grands attaquants, comme le Didier Drogba même, contre lui, ils ont eu vraiment du mal à le marquer. Bon, moi, ce jour-là, en tout cas, je me suis dit que ça, en tout cas, c'est un gardien. Si on arrive peut-être à le marquer, bon, voilà, ça va être vraiment bien pour le Burkina Faso. Et ce jour-là, voilà, Dieu a décidé que c'était Aristide Bansé. En plus, encore un beau but. Voilà, un beau but. Je suis au milieu des deux défenseurs. Et le premier défenseur, il rate le ballon de justesse. C'est pas évident que je sois même prêt, même à reprendre cette balle. Donc, je pense que j'ai fait franchement un magnifique contrôle. Je reprends le ballon. Je pense qu'en tout cas, c'est un beau but. Et moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Et aussi contre Mohamed Salah. C'est Mohamed Salah, le meilleur joueur africain qui marque le premier but égyptien. Et moi, je réagis du côté du Burkina Faso. Donc, ça veut dire que ce jour-là, on est présent. Mais malheureusement, on a perdu au tir au but.
Oui. Je pense que c'est le coup. Malheureusement, l'histoire s'est mal terminée pour les étalons qui se sont arrêtés donc en demi-finale. Tiens, on a une question de Patrick Juillard à propos de votre histoire avec les étalons du Burkina Faso.
Bonjour Aristide, vous avez atteint par deux fois, en 2013 et en 2017, le podium de la CAN avec le Burkina Faso. Sur laquelle de ces deux éditions avez-vous le plus de regrets et pensiez-vous être le plus proche de remporter la CAN?
Bon, moi personnellement, je vais me dire que c'est celle de 2013. Hein. Voilà, c'est celle de 2013 parce que on allait en finale. Voilà, on allait en finale et quand même, on méritait quand même cette coupe. Mais bon, je pense qu'on a eu quand même quelques problèmes la veille de la finale. Voilà, normalement, on devrait voyager à partir de 10 heures et on s'est réveillé à 8 heures du matin pour aller à l'aéroport. Et arrivé là-bas, je pense qu'il y a eu retard. L'avion de la CAF était en retard. L'avion arrivé jusqu'à 22 heures. Après ça, il y a eu la pluie. Donc, nous avons décollé à partir de minuit. Et arrivé là-bas, on est descendu dans un hôtel où il y avait carrément le monde. Il y avait du monde. C'était des photos. Ça défilait un peu partout. Donc, il n'y avait plus la concentration.
Vous avez perdu votre concentration avant ce match contre cette finale contre le Nigeria.
Voilà, bien sûr. Donc, c'était vraiment difficile. Les joueurs de gauche à droite, les visiteurs. Donc, c'était difficile, il n'y avait plus la concentration. Et on pensait qu'on était déjà arrivé. On pensait que déjà, on avait déjà remporté cette coupe. Mais je pense que c'est l'erreur qu'on a fait. Donc, moi, le plus grand regret, c'est ça. Parce que cette finale, en tout cas, on devrait vraiment ramener cette coupe ici. Parce qu'on était déjà en finale. Mmh. Et on perd quand même 1-0. Mais bon, voilà, c'est le Nigeria quand même. Ils sont quand même un grand pays africain. Félicitations à eux.
On parle de cette CAN 2013, évidemment, il y avait déjà Pitropa dans l'histoire, Jonathan Pitropa qui a annoncé qu'il arrêtait avec l'équipe nationale, c'était il y a seulement quelques mois, hein. Vous maintenant, Caboret pourrait aussi arrêter prochainement, c'est un changement de génération, une fin de cycle pour les étalons.
Bon, je pense qu'il y a encore Kabore qui est là. Hein. Voilà, Charles est là, il y a encore Alain qui est là. C'est pas parce que moi je suis parti que Alain va aller et voilà, Charles aussi partira. C'est le football. Chacun a son tour. Voilà, il y a eu la génération 98. Hein. Voilà, 98, là, ils ont eu la quatrième place. Nous, on est venus, je pense qu'on a fait mieux que celle de 98 avec la deuxième et la troisième place en même temps.
Vous êtes fiers de ça?
Oui, fiers de ça. En tout cas, on est fiers de ça. Et il y a une nouvelle génération qui arrive. On espère que, bon, eux, ils pourront nous battre. Et pour nous battre, c'est quoi? C'est pour ramener cette coupe. Je pense que nous, quand même, on a mis la pression quand même, une pression quand même assez haute.
Dernière question, Aristide Bancé. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Bon, c'est de rester dans le football. Voilà, moi, c'est de rester dans le football et c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je sais faire.
Vous avez envie d'entraîner? Vous avez envie de quoi?
C'est possible, hein, c'est possible. Je peux rester dans le staff de l'équipe nationale. Et... Mais en tout cas, c'est d'abord passer d'abord mes diplômes. Voilà, c'est ça qui est en premier. Voilà, c'est de passer mes diplômes. Maintenant, le reste, maintenant, on verra tout doucement.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans Radio Foot, Aristide Bancé. Et félicitations pour l'ensemble de votre carrière.
Merci beaucoup, merci à vous.
Voilà, la page se referme et bah, la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que effectivement, le nom d'Aristide Bancé restera associé à certaines des meilleures heures de la vie de la sélection burkinabé. Franck.
Oui, de très grands moments, il l'a rappelé hein, avec ses demi-finales, celle de 2013 où je crois il est buteur décisif hein, pour la finale.
Et, oui, il égalise en demi-finale contre le Ghana et victoire au tir au but.
En fait, il a vécu tous ces grands moments. Ils ont effacé des tablettes une génération qui avait fait une demi. Il faut savoir que le football burkinabé vient de très très loin et donc sous l'impulsion des Kabore, des Pitropa, des frères Traoré, etc. Il y a une équipe formidable qui s'est créée, qui est en train évidemment de disparaître peu à peu. Vous l'avez expliqué. Et moi, je trouve effectivement, c'est un joueur qui a plus apporté quelque part à travers ses participations à la Coupe d'Afrique qu'à travers ses aventures, cette épopée. Hein, il a traversé quand même au moins trois continents, je crois, en club.
Ouais, trois continents. Patrick, vous gardez quelle image de lui?
Moi, je garde toujours l'image de ses joies après les nombreux buts qu'il a marqués en phase finale. Et c'est le joueur généreux. Et on parlait de sa carrière en club qui avait été frustrante. C'est l'exemple même du joueur dont la carrière en équipe nationale transcende totalement la carrière en club. C'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, c'était une des superstars de la CAN, c'est-à-dire c'était un des visages emblématiques.
On l'attendait.
Un des joueurs même que les gens qui ne suivent pas de très près le foot africain se rappellent. Vraiment, il y a son charisme, ouais. Il y a son look, mais il y a aussi son talent et sa capacité à être décisif sur les matchs importants, les matchs charnières. Et ça, on peut pas lui enlever. Il y a pas beaucoup de joueurs comme ça qui ont une. On peut comparer à Podolski par exemple en Europe, qui était un joueur dont la carrière en équipe nationale était largement supérieure à la carrière en club. Bancé, c'est un petit peu ça.
Gilles, non seulement cette génération a réussi à remettre le Burkina au centre de l'échiquier africain, mais lui, à l'intérieur de cette génération, en est l'exemple. Donc c'est une carrière en équipe nationale qui est formidable. 15 matchs de phase finale, comme il le répète à chaque fois, une médaille d'argent, une médaille de bronze.
Ouais.
Alors il manque l'or, mais c'est pas grave. Franchement...
Superbe palmarès, oui.
Ah, magnifique. Et alors on sent, c'est un peu comme les champions du monde français de 98, qui souhaitaient bonne chance et on espère que nos successeurs vont gagner, tout en espérant quand même qu'ils gagneront pas. De sitôt,
que ça va durer un peu.
Quand il dit, on a quand même mis la pression au successeur, oui.
Franck.
Ne pas oublier quand même, j'insiste là-dessus, c'est peut-être mon côté ivoirien qui veut ça, mais son passage lors de la saison 2016-2017 à la SEC d'Abidjan, ouais. Où il fait quand même meilleur buteur. Tout le monde le regardait. À ce moment-là, il n'y a plus de vedette dans le football ivoirien du tout. N'oublions pas que c'est aussi le beau-frère d'Aruna Dindane. C'est un détail, mais ça veut dire beaucoup. Et donc, du coup, quand il revient en Côte d'Ivoire, il boucle la boucle. Après, il y aura des rebonds, des sursauts, mais c'est plus pareil, en fait. Il est revenu, en fait, compléter quelque chose. Et c'est aussi, je pense, l'attachement de l'Afrique de l'Ouest. On l'a vu, hein, il a signé à Oroya. L'attachement de l'Afrique de l'Ouest, pour lui, elle n'est pas fin.
Il faut aussi se rappeler que le Burkina Faso, à son époque, avait été proche de se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde, puisque c'est l'Algérie qui, en match de barrage en fin 2013, les avait éliminés. Bon, avec des, je trouve, des erreurs d'arbitrage de part et d'autre sur
notamment ces deux matchs qui avaient, à l'aller.
Voilà, qui avaient entaché un peu ce barrage, mais ouais. C'est dire si le Burkina était vraiment monté dans le top 5, top 8 de la hiérarchie africaine avec régularité, quoi. Hein. Pas juste sur un coup de dé ou sur un feu de paille.
Quelques mots encore, les derniers sur Aristide Bansé. Vous lui imaginez quel rôle? Alors, il esquisse la possibilité d'intégrer le staff de l'équipe nationale, Gilles?
Alors, évidemment que son charisme, son expérience, son talent, son sens politique aussi peuvent le mener très loin. Néanmoins, il faut qu'il se méfie parce qu'il est un tout petit peu trop charismatique. C'est-à-dire qu'il risque de faire peur. Quel rôle exactement? Est-ce qu'il va pouvoir, alors il veut passer des diplômes, c'est très bien, se structurer pour quel rôle? Sélectionneur, manager général, président de fédération, voilà, il va falloir choisir. Moi, je le vois très bien, sélectionneur dans 5 ans.
Franck.
Et j'ajouterais sélectionneur d'une équipe de jeunes, où je trouve il apporterait beaucoup avec un encadrement qui, je dirais, aurait la connaissance aussi du travail avec les jeunes. Mais lui, de par son charisme et ce qu'il a vécu, pourrait justement aider une équipe nationale burkinabé.
Ouais, je pense que sa carrière à un double titre peut beaucoup aider des jeunes. Franck a raison. D'abord parce qu'il a toute l'expérience de l'expatriation et des choses trappes et des pièges, et donc il peut bien conseiller des jeunes au moment où ils seront sollicités pour partir en Europe. Et aussi, son vécu avec le maillot des étalons peut l'aider à structurer une équipe, lui apprendre à appréhender les phases finales, les matchs difficiles. Et je le vois bien là-dedans, moi aussi.
Pour se faire la patte.
C'était un buteur sur le terrain et ça peut devenir un passeur dans l'encadrement, un passeur de son expérience, de son vécu. Et je crois qu'il peut apporter beaucoup. Parce que c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui aime les gens, quoi. Qui est pas dans sa bulle, quoi. Mmh. Voilà.
Et bien voilà pour la retraite donc et en sélection et maintenant en club d'Aristide Bansé, que l'on salue de nouveau, que l'on remercie aussi parce que ça a toujours été un plaisir de le croiser. Allez, on ouvre une page anglaise dans ce Radio Foot pour parler d'abord de Jordan Ayew qui est devenu le mois dernier, oui on est encore en juillet, le meilleur buteur ghanéen de l'histoire de la Première Ligue grâce à un but à Bournemouth, mais il y a eu aussi ce but-là.
C'est du grand, grand art.
What a moment from Ayew.
Ah, il fixe, il fait tout lui-même, il vient là, Zizou.
That goal wasn't as good as this one, though.
Le double contact.
How about that? Dancing through.
Et le petit piqué.
Such a cheeky finish as well.
Magnifique, vraiment.
Wave goodbye to the whole defense.
Ouais, ce but exceptionnel, c'était contre West Ham, effectivement.
Ouais. Et il a été, je crois, désigné but de la saison par les supporters de Crystal Palace sur le site internet.
C'est exactement pour ça qu'on en parle. Et c'est vrai qu'il est absolument splendide, ce but, avec un enchaînement roulette à la Zizou. Double contact, l'enchaînement est exécuté à une vitesse folle. Et puis, la petite balle piquée au-dessus du gardien pour terminer. Mais ce n'est pas tout. Pour Jordan Ayew, donc meilleur, plus beau but de la saison pour Crystal Palace, et désigné également meilleur joueur, et par ses pairs, meilleur joueur de la saison, et aussi par les supporters de Crystal Palace. On écoute sa réaction.
Big moment for me. I've worked so hard.
C'est un moment très important pour moi. J'ai beaucoup travaillé pour aider l'équipe. Ma première saison ici n'était pas très bonne, mais le club m'a fait confiance et je voulais rester, faire une meilleure saison et tout s'est très bien passé. Je veux remercier tout le monde au club, les supporters en particulier. Et puis, quand je reçois ce genre de récompense, je pense à ma famille et à un homme qui a été très influent dans ma carrière, Pap Diouf. Je l'ai perdu pendant la période du Covid. J'aurais aimé qu'il soit là pour lui montrer ce trophée. C'est lui qui m'a ouvert les portes du football professionnel. Il était plus qu'un père. J'aimerais beaucoup le remercier parce que je ne serais pas là aujourd'hui sans lui.
Voilà, l'hommage de Jordan Ayew à Pap Diouf qui a compté dans sa carrière, effectivement. Jordan Ayew qui sort donc d'une très belle saison avec Crystal Palace. Est-ce que c'est sa meilleure saison d'ailleurs
Il y a eu Lorient. Il a eu Lorient qui a été, en termes de chiffres, meilleur. Mais j'ai l'impression qu'il arrive enfin à maturité.
Oui,
on
c'est
se posait des questions sur ce joueur, pas sur le talent, mais sur l'absence de maturité pendant de longues saisons. Certainement aussi gêné par gêné. Il y avait aussi l'aura de son frère André qui pesait. Et aujourd'hui, voilà, Jordan existe par lui-même. Il n'est plus le petit frère de André. Il n'est plus le troisième gamin d'Abedi Pelé. Il est Jordan Ayew. Il est ce joueur qui est adulé maintenant par ce public. Et c'est bien, tant mieux. Il a 28 ans, il était temps, quoi.
Bah 28 ans, oui, en général, c'est là qu'on parle de maturité. Bon moment. Gilles.
Vous me permettrez d'exprimer un petit regret. C'est magnifique d'être meilleur joueur de Crystal Palace. 9 buts, 2 passes décisives, super saison. Mais c'est un joueur qui mérite mieux Crystal Palace, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe qui compte des grands joueurs de talent. Un entraîneur Hodgson qui a du mal quand même à faire adopter un sens tactique à cette équipe qui s'en remet souvent d'ailleurs aux éclairs d'Ayew et à juste titre. Voilà, c'est pas du gâchis, mais je trouve que vu son but, vu ce qu'il sait faire, il mérite un peu mieux Crystal Palace. Il a énormément de mérite de s'exprimer dans cette équipe. Mais quel dommage qu'il ne soit pas encore au plus haut niveau par rapport au club.
Crystal Palace, 14e de cette première ligue, Patrick.
Crystal Palace qui a très mal fini, qui a fini totalement en roue libre sa saison, mais qui était longtemps plutôt dans le milieu du tableau, autour de la 10e place, et qui a terminé vraiment sur un toboggan. Mais je trouve que cette saison, effectivement, Jordan a franchi un palier. C'était un joueur qui se dispersait beaucoup, qui sortait souvent facilement de son match pour de l'énervement, pour des contestations arbitrales inutiles et tout ça, qui était un petit peu impulsif. Et là, je trouve qu'il s'est mieux canalisé. Je sais pas si peut-être en plus le confinement au milieu l'a aidé à se Il racontait qu'il avait, après chaque match, son père Abedi au téléphone, et que son père lui a expliqué tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'il pouvait améliorer. Et il racontait en rigolant que même quand il faisait un bon match, son père lui disait que c'était pas bon, pour l'exigence, pour le pousser à se dépasser, et ça a l'air de bien fonctionner.
Ça fonctionne ailleurs, hein. Ça fonctionne avec Pierre Aubame et Pierre Emerick.
Oui, mais donc, peut-être vois, que.
La relation avec le père.
Jordan a peut-être mis un peu plus de temps à écouter que Pierre Emerick, qui est lui plus jeune, était déjà un peu plus mature.
En tout cas, les consignes paternelles, elles datent de loin. Hein. Voilà. Ça a toujours été très serré au niveau des consignes. Un bon match devenait dans l'esprit du père un match moyen.
D'ailleurs, pareil pour André, bon, on le sait bien, mais. Moi, j'aime bien ça. J'ai trouvé qu'il mettait en avant un peu plus de sa maturité cette année. Après, il bénéficie aussi peut-être au contraire d'une saison un peu plus moyenne de Wilfried Zaha, qui était précédentes le vrai fer de lance et le vrai top player de cette équipe de milieu de tableau.
Mais pas le buteur. Top player, mais pas le buteur.
Là, Ayew, je trouve qu'il s'exprime. Enfin, il était sorti de l'ombre d'André. Maintenant, il est sorti de l'ombre de Wilfried Zaha. Donc, peut-être que l'avenir s'annonce plus radieux.
Ouais. Oui. Alors, pour compléter ce que vous dites, 9 buts en première ligue cette saison pour Jordan, et Wilfried Zaha est resté à 4 buts. Hein. Il a été, on le disait tout à l'heure, il est devenu le meilleur buteur ghanéen de l'histoire de la Première Ligue, juste pour le plaisir de réentendre certains noms. On rappelle le classement. Jordan Ayew, donc, il totalise maintenant 25 buts en Première Ligue, et il est passé devant Anthony Yeboah, qui lui en avait marqué 24 sous le maillot de Leeds United.
Mais qui est peut-être resté moins longtemps.
Oui, qui a mis moins de temps à atteindre cette marque, et puis après qui a surtout quand même marqué les esprits en Bundesliga plus qu'en Première Ligue. On se rappelle son duo exceptionnel avec JJ Okocha à l'Eintracht Frankfurt.
Et derrière, donc, pour compléter ce top ghanéen de la Première Ligue, il y a en troisième position André Ayew, Michael Essien et Gian Asamoah.
Pas mal, hein?
Oui, ça fait une belle
beau petit quintet. Le palmarès, c'est de haut niveau.
Comme vous êtes des fidèles de Radio Foot, vous n'avez pas manqué, bien sûr, l'émission de lundi, le débrief de la dernière journée de la Première Ligue. On a fait le tableau d'honneur, les qualifiés pour la Ligue des Champions, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea. On avait parlé de Leicester aussi, qui termine à la 5e place. Et aujourd'hui, on voulait revenir un peu quand même sur Tottenham, qui finit 6e après son match nul un partout à Crystal Palace, justement, le palace de Jordan Ayew, ce qui veut dire que les Spurs joueront la Ligue Europa. Est-ce que ça peut suffire au bonheur d'un José Mourinho? Eh bien, écoutons José Mourinho. S'il veut bien.
Of course, everybody that one day plays.
Bien sûr, tous ceux qui ont joué la Ligue des Champions n'ont pas envie de retourner en Ligue Europa. Mais c'était la seule chose possible pour nous après une saison si difficile pour les joueurs comme pour moi. Passer de la 14e à la 6e place, c'est vraiment pas mal du tout. Je suis heureux de pouvoir jouer la Ligue Europa la saison prochaine. On va se motiver pour cette compétition et on va essayer de pousser les supporters à nous aider à faire quelque chose de bon.
Alors, vous n'y croyez pas, là.
Même lui, il n'a pas l'air d'y croire.
Le ton est quand même.
Même lui, voilà, dans son ton, dans ses mots, il n'a pas l'air d'y croire. Très franchement, c'est pas bon. Ils sont à 40 points de Liverpool. Alors oui, quand il est arrivé, c'était mal engagé. Voilà. D'accord. Mais quand même, le redressement est très timide. La Ligue Europa, ça ne va pas. Il y a un trou énorme. 220 millions. 220 millions. Donc, il va y avoir un bras de fer entre Mourinho et le président qui n'est pas dépensier, qui commence à dire il y a 7 joueurs à vendre, 7 joueurs doivent partir, il faut diminuer la masse salariale. Donc, quelle reconstruction. Franchement, là, je trouve que le Mourinho de Tottenham, hélas aussi pour des joueurs qu'on adore, il fait peine à voir.
Donc, je voulais vous demander, alors, le sourire au coup de sifflet final de dimanche, là.
Façade.
Façade.
Bah, sourire de façade.
Ça a pas fait pchit en même temps. Il est arrivé, la situation était compliquée, mais c'est loin, c'est extrêmement loin de ce qu'on pouvait attendre d'abord d'un groupe comme le sien, et puis de ce que lui peut aussi apporter. C'est loin d'être parfait. Donc effectivement, il y a ce sourire de façade, et derrière, on s'aperçoit que il y a quand même beaucoup de soucis à venir. Bon, ça veut rien dire. Hein. Sixième aujourd'hui en première ligue, ça veut dire que t'es derrière tous les gros, quoi, en fait, hein, et que tu as perdu ce statut qui était celui de Tottenham il y a quelques deux saisons en arrière, quoi.
Regardez avec Tom, il a avec Tom Rossi, il a joué 17 fois la Ligue des Champions dans sa carrière. José Mourinho, il en a gagné deux, hein, 2004 Porto, 2010 avec l'Inter. Donc là, effectivement, on peut se dire que lui-même, malgré le sourire, a sans doute un regret.
Oui, alors il est protégé.
Ou alors il a accepté qu'il est sur le déclin, comme on l'entend dire beaucoup.
Non, c'est pas exactement ça. Je pense que
il est pas sur le déclin.
Non. Il est sur le déclin, mais il s'avoue pas vaincu pour autant. Je pense qu'il se sait protégé, parce qu'il faut rappeler que Tottenham a licencié Pochettino et lui doit son salaire jusqu'à ce qu'il retrouve un nouveau club. C'est dans le deal, donc. Ça coûte extrêmement cher au club parce que Pochettino n'était pas payé au SMIC, hein, vous en doutez. Mourinho sait donc qu'il a un peu de temps parce que ça coûterait très cher de licencier en plus José Mourinho. Et il veut peut-être se donner l'image de quelqu'un qui fait un peu plus profil bas, qui fait un peu moins de déclarations et qui essaye de repartir de manière un peu plus humble, comme l'a fait Ancelotti, lui aussi, à Everton. Pour peut-être casser l'image de l'entraîneur flamboyant et gueulard qu'il est aux yeux de beaucoup.
C'est bien de gagner des matchs aussi quand on est entraîneur.
Non, il a fait tellement
profil bas qu'il gagne plus de matchs.
Oui, c'est le plus faible total de sa carrière, mais il a repris une équipe en cours de saison. Il l'a quand même, on peut pas nier qu'il l'a redressé au final.
Ça n'a pas obligé.
Moi, je suis pas un fan absolu de Mourinho, mais je pense qu'il a une idée derrière la tête. Et il se dit que la saison prochaine, avec un effectif un peu plus à sa main et à son idée, il peut à nouveau montrer de bonnes choses. C'est un pari, c'est pas sûr qu'il sera gagné. Hein.
Mais moi, je suis beaucoup plus pessimiste parce que son football rigoureux, presque austère qui gagnait, n'est plus du tout à la mode. Ce football, il est passé. Et c'est triste pour lui, sans doute, parce que c'est un très grand entraîneur. Mais aujourd'hui, Guardiola a su s'adapter, avec toujours ce jeu de possession, c'est vrai, mais il a su s'adapter. Klopp est arrivé. Et Mourinho paraît, avec tout le respect que j'ai pour lui, un tout petit peu ringardisé quand même.
Oui. Ringard, Franck, vous êtes d'accord avec ce mot ?
Bah, il s'est ringardisé, je trouve, ces dernières saisons, et puis il s'est caricaturé à un moment donné. C'était plus le Mourinho triomphal ou triomphant qu'on connaissait. Bon, avant de venir dans l'émission, je regardais bêtement, hein, je regardais juste les statistiques. Alors effectivement, c'est sûr, il prend une situation compliquée. Mais enfin, c'est un total hyper faible. Il y a 20 ans qu'il a pas connu ça, et c'était à Leiria au Portugal, hein. Donc. Son travail, il l'a fait du mieux possible, mais c'est pas terrible.
Alors, vous vous souvenez que mi-juillet, et là, on va changer de club, eh bien, le tribunal arbitral du sport avait blanchi Manchester City, qui était soupçonné d'avoir enfreint les règles du fair play financier. Le TAS a annulé la suspension du club anglais pour les deux prochaines campagnes européennes, pour les deux prochaines saisons de Coupe d'Europe. Ce qu'on n'avait pas vu encore, c'était le jugement complet du TAS, et il est public depuis hier. Oui, effectivement, il y a un peu de volume, Franck, je vous le confirme. Mais c'est intéressant. D'abord, le TAS explique clairement que City a mis beaucoup de mauvaise volonté. Le diagnostic est clairement posé, qu'il a coopéré à contre-cœur à l'enquête. Notamment, City a attendu le dernier moment, c'est-à-dire la procédure d'appel, pour fournir des témoignages de dirigeants du club et la lettre de Cher Mansour, le membre de la famille royale d'Abu Dhabi qui avait repris le contrôle du club il y a maintenant plus de 10 ans. Des documents qui, en fait, auraient pu être produits dès l'enquête, la première enquête, mais ils ont attendu l'appel. Et le TASS va même jusqu'à dire que Manchester City a affiché le plus grand mépris pour l'enquête.
Alors, pour moi, ça renforce, mais de manière totale, presque vertigineuse, le succès absolu de Manchester City. Il faut savoir que les attendus du TASS, c'est les meilleurs en matière de sport. Là, il y a 92 pages, mais parce que non seulement ils décryptent, ils dissèquent juridiquement, mais ils donnent leur avis. Et c'est pas toujours le cas dans les jugements. Mmh. Et là, je trouve que l'avis qui est rendu, c'est une défaite, mais absolue, absolue pour les instances européennes, notamment l'UEFA. Parce que on vous dit, Manchester City les a méprisés, mais ils ont tout gagné. Mmh. Ça veut dire que les avocats de l'UEFA et le dossier de l'UEFA étaient nuls. Et en creux, le TASS dit à l'UEFA, vous êtes une bande de nuls, incapable de bâtir un dossier. Vous aviez tous les éléments pour le faire. Vous avez mis 2 ans de retard. Vos avocats sont médiocres et Manchester City vous a ridiculisé. Donc je trouve que la défaite de l'UEFA, à travers ces 92 pages, est totalement accablante.
Franck ?
Pas mieux.
Alors, Patrick, pas mieux non plus ?
Oui, bien sûr, je partage totalement. Gilles a tout dit.
Non, c'était aussi effectivement sur l'amende qui a été réduite par la décision du TASS, qui est passée de 30 millions à 10 millions d'euros. Oui, petite somme.
Petite somme,
et ouais. En fait, c'est une amende qui est justifiée par c'est la punition du fait que Manchester City n'a pas coopéré avec les enquêteurs de l'UEFA. Voilà, sur le fond, la conclusion du TASS est que, alors là, je cite le document, sur la base des preuves fournies, on ne peut pas affirmer que des fonds déguisés ont été versés à Manchester City. Parce que c'était bien ça la question. Est-ce que City a dissimulé des sources de financement en faisant passer pour du sponsoring? Et puis le point intéressant aussi, c'est que le TASS reconnaît que l'UEFA a été confrontée au manque de temps. Pour réunir des preuves, des éléments supplémentaires. Et là, on se demande finalement, Gilles, si avec davantage de temps, la conclusion n'aurait pas été radicalement différente, y compris pour le TASS.
Si, mais alors il fallait faire où le dossier avant, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de prescription pour certains potentiels virements non justifiés, et là on aurait pu voir, ou alors le faire plus tard quand vous aviez tous les éléments. Mais vous ne montez pas, en matière juridique, vous ne montez pas au feu, au créneau, quand vous n'avez pas le dossier pour. Et là, ça veut dire que les avocats... Alors, Manchester City avait pris des cabinets d'avocats extraordinaires. Et d'ailleurs, quand on reprend toute l'histoire, j'ai regardé, Manchester City a toujours été très optimiste. Alors que toute la presse mondiale annonçait suspension. Jamais eux, Guardiola a toujours dit « je reste, quoi qu'il arrive ». Je pense qu'il
très mesuré, très mesuré, parce que effectivement, il avait connaissance.
Les avocats ont été de Manchester City extraordinaires. Tout le monde va les prendre maintenant. Et c'est vrai que l'UEFA est monté au feu sans rien. Donc il y a une petite amende et ils n'ont pas apporté la preuve. Manchester City a dit mais prouvez, allez-y prouvez. Et il n'y avait pas la preuve. C'est quand même hallucinant cette histoire.
Quand on dit manque de temps, c'est manque de travail. En
oui,
fait.
Ah, mais
c'est
absolument.
Pas manque de temps.
Et manque de qualité d'avocat.
Le temps était le même pour tous. Manchester City a monté un dossier en béton. L'UEFA est arrivé. J'allais pas dire à poil, mais presque. Et voilà, donc c'est pas un manque de temps, c'est
super
un manque
stratégie.
De travail. C'est
une super stratégie de leur part, en tout cas.
Manque de temps dans la mesure où il y avait la date butoir qui arrivait et que la moitié de la Première Ligue mettait la pression pour conclure avant le début de la saison prochaine.
Parce les rivaux ont voulu les balancer. Hein. On voit
tous,
dans les attendus du TASS, tous ceux qui étaient concernés, boum, 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 ça va laisser des traces dans la Première Ligue parce que l'esprit de la Première Ligue...
On attend ça, effectivement.
Ils sont déjà pas très populaires auprès des supporters des autres clubs à Manchester City, donc ça va pas arranger leur cote, mais je pense qu'ils s'en foutent un petit peu maintenant.
Alors attention, quand je dis que le dossier de Manchester City est extraordinaire, on parle pas de morale là. Hein. Sur le plan de la morale, c'est forcément très limite. Mais au niveau de la bataille juridique,
la
c'est
stratégie.
Une victoire éclatante. La stratégie éclatante comme succès.
Il y avait Arsenal, il y avait Chelsea, Liverpool, Manchester United qui mettaient en demeure pour obtenir que ce soit tranché avant le début de la saison 2020-2021. Logique d'ailleurs, puisque Manchester City, la situation de Manchester City pour la saison prochaine impactait celle de ses rivaux.
Bien sûr.
Il nous reste un petit peu de temps, quelques minutes. Je voulais juste, on a beaucoup parlé d'Italie hier dans l'émission présentée par Marie-Amélie Motte. L'Atalanta a joué hier. Vous avez suivi ça. L'Inter a joué. L'Inter a battu Naples 2-0 et conforté sa place de deuxième. Juste un petit mot sur le match de l'Atalanta qui a été mené au score et qui finalement s'impose 2-1 à Bergame. On pense évidemment au match du 12 août contre Paris Saint-Germain. Saint-Germain en Ligue des Champions et qui a donc l'Atalanta un peu pioché en première période avant de montrer beaucoup de ressources en deuxième période pour finalement l'emporter. Gilles, c'est la confirmation que l'Atalanta est un adversaire costaud.
Oui, mais à réaction. Et effectivement, l'entraîneur s'en plaint d'ailleurs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il se fustige plutôt que de fustiger les joueurs. Et il doit à chaque fois, en ce moment, les premières périodes sont ratées, il doit à chaque fois...
Gasperini. Hein,
ouais. Gasperini, remodeler tactiquement. Il doit à chaque fois, il est très fort, il doit à chaque fois changer quelque chose. Parce que cette équipe, quand même, elle est un peu moins séduisante. Alors, on ne va pas tirer d'enseignement, mais un peu moins brillante. Un peu moins offensivement chatoyante et intouchable qu'elle l'était il y a quelques temps. Je trouve ça personnellement un peu plus poussif.
10 matchs en un mois, ça laisse des traces.
Oui, même ils sont fatigués.
Même avec les changements multipliés, les turnovers,
la règle des 5 changements avantage surtout les clubs qui ont de gros effectifs, qui ont des effectifs modelés depuis longtemps pour la Ligue des Champions. C'est pas le cas de l'Atalanta Bergame, qui est qui est une belle surprise, mais qui était pas programmée pour ça. Et il pioche un petit peu. Maintenant, je pense que l'aspect mental et ce côté d'équipe en mission, puisqu'ils se sentent investis aussi de rendre hommage à tous les morts du coronavirus dans cette ville très touchée, jouera beaucoup en leur faveur en Ligue des Champions. Alors, ça peut aussi être à double tranchant et les sortir un peu de l'enjeu, mais je pense que ça peut les remonter, les transcender.
Voilà donc pour l'Atalanta Bergame. Mais avant de se quitter, eh bien on accueille Martin Guez qui vient nous parler d'une nouveauté d'été que RFI vous propose. Bonjour Martin.
Bonjour Christophe, bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
Une nouvelle émission qui est centrée sur le football du futur. Ça s'appelle Match Retour, Martin, et on invite tout le monde à jouer ce match avec nous.
Eh oui, Radio Foot héberge un petit correspondant d'été, un petit correspondant qui parle donc une drôle de langue, la langue du futur. L'émission s'appelle Match Retour, vous venez de le dire, que le service des sports de RFI vous invite à venir disputer en notre compagnie. Match Retour, ça se jouera tous les samedis soirs du mois d'août à 21h d'ici temps universel. Mais les habitués de Radio Foot sont des petits chanceux et peuvent écouter le premier numéro en exclusivité sur RFI.fr, rubrique podcast, onglet Match Retour, petit avant-goût.
Regardez dans la boule de cristal.
Ça va trop vite, ça va trop vite.
Voy the future.
Retour vers le futur, non.
Dans quelques années, notre manière de regarder un match de foot pourrait radicalement changer.
Mais quel mouvement.
C'est une fierté de voir les choses évoluer.
Et là, c'est le match retour.
C'est un premier pas
vers l'infini et au-delà.
Bonsoir et bienvenue dans Match Retour. Objet de toutes les convoitises, l'insaisissable ballon rond n'a pas échappé à la crise sanitaire. Difficile de lire ses trajectoires. À quoi ressemblera le football d'après? Merci de venir disputer le Match Retour en notre compagnie. Tout est possible sur RFI.
Le Match Retour officiel, tu vois, ça vaut pas le coup.
Je vous souhaite un bon futur.
Voilà, vous l'aurez peut-être reconnu, Hugo Moissonnier qui présente aussi parfois Radio Foot. Il est cette fois la baguette des 5 numéros de Match Retour dans le premier épisode. On se demande si à l'avenir et après la pandémie, le football nous racontera une histoire toujours aussi populaire. Et puis dans les autres émissions, on abordera la question du corps des footballeurs, leur rôle dans la société, l'évolution du football pratiqué par les femmes et les enjeux autour du virtuel et des jeux vidéo. Des numéros à retrouver également sur nos réseaux sociaux et plateformes de streaming. N'hésitez pas à partager, vous aussi messieurs, si le cœur vous en dit, à commenter, à nous dire ce que vous en pensez. Le premier numéro est aussi sur la page Facebook de Radio Foot. Bon match retour à tous.
Merci beaucoup Martin, match retour. On y va direct, on finit l'émission et on se branche direct pour écouter le numéro 1. Merci aussi à vous messieurs, Gilles Verdez, Franck Simon, Patrick Juillard, Tom Rossi, merci aussi Laurent Salerno. Merci et à demain pour un autre Radio Foot qui sera présenté par Olivier Pron.